Mémoire du maraîchage dans l'Albigeois, Lescure maraîchage à la dure, second épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander d'abord de vous présenter ?
Oui, alors je suis M. Terral Paul et je suis le fils de M. Terral Albert qui était maraîcher dans les années 45 jusqu'aux années 70 à peu près. Bon, disons qu'au début il était maraîcher, mais à un niveau vraiment tout à fait. C'était presque un bricoleur. Il vendait au détail à Carmont uniquement. Ensuite il s'est agrandi et puis après il vendait au marché de gros Albi le mercredi je crois et le samedi, et il avait abandonné le détail, c'est-à-dire qu'au départ avec au détail ça lui suffisait pour vivre, mais ensuite le détail ne rapportait pas suffisamment, donc il fallait cultiver davantage, produire davantage et vendre davantage, et alors ce mal-là il vendait au marché de gros.
Pour la rencontre avec Louisou, centenaire débonnaire, à l'EHPAD Les Charmilles, le 21 février 2020 à Lescure d'Albigeois, j'avais d'abord pris contact avec Paul, son fils, pour lui demander l'autorisation d'aller à la rencontre de la mémoire de son papa. Il me l'avait donné sans difficulté. Mais ce dont je ne me doutais pas, après la rencontre avec Louisou, Albert de son vrai prénom, c'est que Paul aussi en avait des choses à dire sur le maraîchage à Lescure, des photos à montrer aussi, des pratiques qu'il avait fini par reproduire dans son propre jardin. Mais un jardin plus petit, un jardin du quotidien, mais seulement quelques heures par jour pour le plaisir, et la santé sans doute aussi. Je rencontre Paul Terral le mercredi 26 février 2020 chez lui, à Lescure d'Albigeois.
Et vous, vous avez des souvenirs de vous dans les champs en train d'aider un peu votre papa ?
Oui, oui, particulièrement désherber des carottes, que ça ne me plaisait pas du tout. Puis préparer la marchandise pour la vendre au marché. Encore l'été, c'était faisable, c'était pas trop pénible. Mais ce qui était pénible, c'était l'hiver. Parce qu'il faisait froid, avec un temps comme aujourd'hui sous la pluie, il fallait ramasser les légumes. Et le lendemain, il fallait les vendre. Et
alors, vous me racontiez, par rapport à ce que nous a dit M. Vabre, où il nous parlait de mazout pour désherber, vous voulez préciser un petit peu les termes ?
Je pense que c'était du pétrole. Bon, c'est toujours la même chose, mais enfin, ça s'appelait du pétrole. Mmh. Et ce pétrole servait à désherber les carottes, parce que ça n'attaquait pas les carottes, mais ça attaquait l'herbe, uniquement.
Mais il fallait quand même repasser derrière.
Ah, il fallait après ensuite les sarcler, les carottes, enlever le restant d'herbe qui restait, et c'était un travail fastidieux. Mais l'oignon de Lescure, c'était tout au tout début. L'oignon de Lescure, c'était fait dans les champs et pas dans le jardin. Et cet oignon, il était vendu à des négociants qui passaient et qui le revendaient ensuite. Ils le revendaient, je crois que c'était en Angleterre qu'ils le revendaient, ou dans d'autres pays.
Et alors, votre papa, il n'a pas su me dire ce qu'il avait de spécial, mais M. Vabre, lui, me disait qu'il se conservait bien. Est-ce que c'est pour ça que...
L'oignon de Lescure se conserve très bien, comparé par exemple à l'oignon de Montauban. L'oignon de Montauban, c'est un oignon qui est hâtif, tendre et qui ne conserve pas. Alors que celui de Lescure, c'était un oignon qui conservait. C'était le chemin des Courdurariès. Oui.
Donc au début de la plaine maraîchère, ce qui voilà. Commence la plaine maraîchère. Et là, vous me disiez, là où vous avez la propriété, c'était aussi des terres.
C'était un champ. Soit il faisait du blé, soit il faisait un champ d'oignons. En face, c'était que des jardins. Partout, c'était que des jardins. Et quand mon père disait qu'il y avait une vingtaine de jardiniers, je crois qu'encore c'était plus que ça. Mais c'est surtout à Lescure qu'il y en avait le plus.
Est-ce que vous vous souvenez de comment l'évolution de l'irrigation ? Il y avait des puits où on allait la chercher au Tarn, l'eau, comment ça se passait ?
Au départ, on irriguait tout, avec les puits, on n'allait pas chercher l'eau, on allait chercher l'eau au Tarn, uniquement quand il y avait de la sécheresse. Ils prenaient des grands récipients qui remplissaient d'eau et puis ils reversaient sur le terrain après. Mon père avait une petite vigne, mais au tout début, après il l'a abandonnée. Mais c'était uniquement pour les besoins de la famille. Elle se situait sur la route de Carmaux, à Bussy.
Et vous avez participé à des vendanges ?
Oui, oui, oui. Des vendanges tout à fait simples. Hein. C'était une vigne, c'était pas de la vigne greffée, donc c'était du raisin vraiment tout venant un peu.
Et vous avez bu votre premier canon de vin à jeune alors ?
Il n'était pas très bon d'ailleurs.
C'était du vin à moins de 10 degrés à l'époque, non ?
Oui. C'était presque du vinaigre même. Moi, je n'ai jamais travaillé avec mon père. Je travaillais avec mon père pendant les vacances, uniquement. Après, j'avais un emploi à l'extérieur.
Et donc, lui, il était aidé par quoi ? Par votre maman ?
Il était aidé par ma mère. Et ensuite, il y avait du personnel. On appelait ça des journaliers. Il y avait des moments où il y avait des gros travaux, et c'était les journaliers qui venaient lui donner un coup de main. Ensuite, quand il fallait préparer les légumes, les légumes se préparaient la veille, évidemment, du marché, et il y avait des personnes âgées qui venaient lui aider à trier les légumes. Et les choux de Bruxelles, par exemple, se faisaient à la veillée le soir. C'est-à-dire qu'à partir de 8 heures, les gens y venaient, des voisins, ils triaient les choux de Bruxelles jusqu'à minuit. Parce qu'en fait, il fallait enlever toutes les feuilles endommagées qu'il y avait autour des choux de Bruxelles. Je crois que ça ne se fait plus, maintenant ils les coupent et puis ils les mettent...
Et alors ça, justement, quand j'en ai parlé avec votre papa, pour préparer les légumes, je crois qu'on s'était mal compris au début, parce que je lui avais demandé si c'est lui qui cuisinait à la maison, vu qu'il était maraîcher et qu'il connaissait les légumes, ou est-ce que c'était sa femme. Est-ce que vous vous souvenez de votre papa de l'avoir vu cuisiner, par exemple?
Non, jamais. Non, jamais. C'est ma mère qui le faisait. Et elle cuisinait, et en plus, dès qu'elle avait fini de préparer le repas, elle partait dans les champs. De même que mon père, quand il allait au marché, il se levait à 4h ou 3h30, 4h pour aller au marché de gros. Il déjeunait et il repartait au champ l'été jusqu'à 10h du soir, non-stop.
Et vous l'avez accompagné sur certains marchés?
Ça m'est arrivé quelquefois, mais ça ne me plaisait pas, moi.
Pourquoi ?
Parce que je trouvais ce métier pénible et puis un peu dépassé à l'époque.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi, il me l'entendait tant et si bien rabâché, qu'à chaque fois moi j'oubliais.
Trabaja.
Travaille.
Trabaja, no te pienses.
Travaille, mon enfant.
Que sin dinero vivirás.
La vie sans argent, ça vaut pas le déplacement.
Junta el esfuerzo y el ahorro.
Gagne mes gardes, tes sous, fais ton trou. Et alors tu verras.
Abre tes pasos, ya verás.
La vie daignera te donner quelques moments de joie.
Como la vida te depara buenos momentos, te alzará.
Enfonce bien les petits,
los pobres,
les mesquins,
les mezquinos,
tous les cons qui se contentent de ce qu'ils ont.
Que no han sabido descollar.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché, qu'à chaque fois moi j'oubliais. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché. À chaque fois, moi, j'oubliais. Dans la vie, c'est chacun pour sa peau. Et voilà toute l'histoire. Sortez gros, joue solo. Sinon, tu ne seras qu'un tocard. À tocard. Vas-y fiston, mets le paxon. Toute la terre, le soleil et la mer appartiennent à ceux qui s'assoient sur leurs frères. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché, qu'à la fin j'ai tout oublié. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché, qu'à la fin j'ai tout oublié.
Il a olvidado siempre más.
Ça va, il a travaillé jusqu'à quelle année?
Il a travaillé jusqu'à l'âge de 62 ans, donc je ne sais pas quelle année c'était. Ça me... Mais enfin, disons que vers la fin, ensuite, il vendait au marché de gros, si vous voulez. Et il s'était associé à plusieurs, c'était comme un genre de GAEC, pour pouvoir contacter le plus possible d'épiciers, avec le plus possible de marchandises, parce que quand on est seul, on en produit très peu. Et à ce moment-là, on n'a pas de choix de marchandises. Tandis que là, il arrivait à contacter, même je crois qu'il livrait à Leclerc à l'époque. Un faisait des navets, l'autre faisait des tomates, l'autre ainsi de suite, mais en grosse quantité.
Comme une coopérative un peu.
Un peu, oui.
Et alors vous n'avez pas repris. Pourquoi? Donc pour la dureté du métier, c'était?
Oui. Oui, puis ça ne me plaisait pas en plus. Ça ne me plaisait pas et maintenant ça me plaît. Alors.
Vous refaites du jardin,
petit jardin? Oui, j'ai un petit jardin et je cultive mon jardin. Oui.
Et ça vous a. Ça vous...
À l'époque, je le trouvais pénible.
Oui, pour toute une vie, peut-être c'est compliqué.
Oui, c'est très pénible. Il faut l'avoir vu pour.
Oui, d'ailleurs. Votre papa, il le dit.
Non. Et puis la quantité de poids qu'il a trimballé, sans arrêt, charger les camions et tout, c'est pénible.
Et votre jardin, vous le cultivez selon des méthodes que vous avez apprises à enfant?
Ben, je pense. Ouais. Ce que j'ai vu, je fais ce que j'ai vu.
Mm-hmm. Et ça vous suffit pour tous les légumes ou vous êtes obligé d'acheter quand même au marché?
Moi, j'en achète pas beaucoup parce que j'ai un petit jardin derrière et ça nous suffit, on fait des conserves et tout. Mm-hmm. Non, et puis ça me plaît, puis c'est agréable. Au moins, on sait ce qu'on mange, et puis c'est agréable de cultiver aussi.
Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux légumes que vous avez vu arriver au fur et à mesure?
Le fenouil. Par exemple, au début, il n'était pas cultivé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme légumes? Après, c'est tout. Le céleri rave aussi.
Ouais. Sinon, le gros de la culture, c'était quoi? Tomates, carottes, oignons?
Le gros de la culture, c'était poireaux, carottes, navets, tomates, choux de Bruxelles et courgettes, voilà. Mmh. Et la salade aussi.
Est-ce que votre papa, il a eu des serres et à quel moment et sous quelle forme?
Il a eu des serres dans les années 70 à peu près, sur la fin. Des serres en plastique, des grands arceaux, on étalait le plastique sur la serre et puis là il faisait des navets dessous.
La productivité a augmenté à partir de ce moment-là?
Oui. Ouais. Mais il fallait le faire pour pouvoir vivre à ce moment-là, sinon on ne vivait pas. Il fallait produire beaucoup alors qu'autrefois avec peu... On était peut-être moins exigeants, mais ça suffisait.
Alors pourquoi? Parce que ce serait les prix qui auraient baissé de l'achat? Est-ce que c'était moins rentable d'aller sur les marchés de détail
et... Non, c'est-à-dire, oui, les prix avaient baissé et il fallait produire beaucoup plus pour compenser cette chose-là.
De l'autonomie à nos, je vois, vous nous avez apporté des photos, là. Il y avait le puits et on voit votre papa notamment arroser justement
avec une lance. C'est exactement comme une lance de pompe. D'ailleurs, je l'ai encore, ouais. Je l'ai gardée. C'était une lance en cuivre et qui arrosait très loin.
Et vous nous parliez aussi de...
Ensuite, il y a eu les rampes d'arrosage oscillantes. D'abord les arroseurs et ensuite les rampes oscillantes.
Donc ça automatisait un petit peu le...
Voilà. Et puis après, il a arrêté. Donc, mais là, maintenant, ça ne serait plus ça. Ça serait du goutte à goutte, maintenant, je pense.
Et alors, on parlait, vous ne l'avez peut-être pas connu précisément, mais par rapport à M. Vabre qui nous parlait de l'arrosage à la pelle, est-ce que vous avez des souvenirs un peu de ça quand même? Ou quelqu'un vous a raconté un peu comment ça se passait?
On m'a raconté, je l'ai entendu dire, mais bon, je ne l'ai jamais vu. J'ai le souvenir d'avoir vu les petites soutières qui retenaient l'eau pour pouvoir jeter l'eau avec une pelle.
Est-ce que vous vous souvenez si il y avait beaucoup de mots occitans
oui,
pour
oui.
Est-ce que vous vous souvenez de quel
entre eux en occitan
ouais.
À l'époque, le français, ça n'existait pas, c'était le patois.
Est-ce que vous vous souvenez de quelques noms de légumes, par exemple, en occitan?
L'oignon, c'est la sèbe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les tomates, c'est tomates, je crois. Le céleri, c'est l'api. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Carotte, je pense. Non, je ne vois pas beaucoup de...
Les caoulettes.
Moi, je ne connais pas trop encore le patois. Je le comprends, mais en mémoire, c'est des mots qui me reviennent. Si je l'entends dire, je le comprends, mais bon, c'est tout. Hein.
Comment ça a été vécu, ça, justement, par vos parents? Le fait que vous appreniez le français et presque, j'imagine, à l'école, ça devait être un peu interdit, l'occitan. Eux, ils l'ont un peu aussi
non,
vécu...
De mon époque, non, disons, tout le monde parlait français. Oui. Ouais, voilà.
Mais eux, ils avaient vécu la période...
Ils ont connu à l'époque, ils parlaient patois, et c'était interdit de parler patois à l'école. Il fallait parler français.
Et alors, à la maison, comment ça se passait, justement?
Et à la maison, ils parlaient patois. Mais c'est le problème, c'est qu'après, ils parlaient très mal le français. Ils mélangeaient le patois avec le français.
Et vous compreniez tout?
Oui, à peu près, à force de les entendre, je comprenais tout. Hein.
Donc il n'y a pas eu trop de conflits générationnels entre...
Non, pas du tout, non.
Alors il me disait aussi, votre papa, qu'il y avait des jalousies un peu, peut-être sur les prix, alors je n'ai pas trop su
oui,
pourquoi.
Je pense qu'il s'est mal exprimé. La jalousie qu'il voulait mettre en avant, c'était que vous alliez sur un marché, il y avait les concurrents qui passaient, et regardaient à quel prix vous vendiez la marchandise. Et eux, ils repartaient... Ils vendaient la marchandise toujours moins chère que la vôtre.
Ah oui.
Donc coup, après, ça faisait des conflits.
Ça faisait baisser les prix en plus.
Voilà, des jalousies, c'est pas des conflits, mais des jalousies, ça faisait.
Et ça, c'est vrai que ça, apparemment, ça lui a beaucoup pesé, ça.
Oui. Ça existait. Hein.
Est-ce qu'il faisait les foires, votre papa?
Oui, il faisait la foire de Gaillac pour le plan d'oignon et le plan de tomate. C'est une foire qui existe toujours et qui est au 1er mai à Gaillac. Mais il y en avait d'autres, hein. Mais il faisait que celle-là, lui.
Et est-ce qu'il y avait des temps forts, comme nous disait Monsieur Vabre, des temps forts sur le radis, par exemple, à Pâques, sur...
Ça, je ne l'ai pas connu.
Non.
Moi, chez moi, c'était... Bon, au printemps, évidemment, c'était le radis. On ne faisait pas des radis l'hiver, ni même les radis en plein été. Donc, ça... Mais bon, il ne faisait pas que le radis. Alors qu'apparemment, Monsieur Vabre faisait le radis à cette époque-là. Mon père, il faisait le radis, de la salade, un peu de tout. Hein.
Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux générations futures qui se lanceraient dans ce métier dont on a dit qu'il était bien dur? Vous l'avez pas choisi, ce métier, mais vous dites que vous retournez au jardin, c'est avec plaisir. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire?
Je pense que pour en vivre, on ne peut pas en vivre maintenant. Et contrairement à ce qu'on croit, le bio, c'est bien. C'est très bien, le bio. Mais... Celui qui produit bio, je ne sais pas s'il va pouvoir vivre avec le bio. Je ne pense pas.
Et donc, ça serait peut-être, comme vous avez dit, peut-être sous forme de coopérative ou de GAEC. Là, il y a moyen de s'en sortir.
Ce qui serait bien, par contre, c'est que les gens aient un bout de terre et se le cultiver soi-même. Là, oui. Là, ils mangeraient bio, ils seraient ceux qui mangent, et ça serait plus rentable que d'acheter de la marchandise bio qui, elle... souvent n'est pas jolie et qu'elle ne conserve pas.
Bien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces témoignages?
Non, je pense que c'est tout.
Ouais.
Je pense qu'on a fait le tour. Oui.
Et bien, merci beaucoup.
De rien, merci.
Merci à Paul Terral ainsi qu'à sa femme pour l'accueil et le bon moment passé, les photos et cahiers partagés ainsi que le petit tour du propriétaire avec visite du jardin potager bien sûr. Merci pour la musique à René Aubry, Yann Tiersen, Les Têtes Raides et La Tordue. Ce petit portrait sonore a été fait dans le cadre du projet Mémoire du maraîchage de l'association Albiville Comestible. Merci à toute l'équipe de cette association à retrouver sur internet albivillecomestible.fr ou par mail contact@albivillecomestible.fr. Merci enfin au conseil et au soutien de l'association La Talvera à retrouver sur internet talvera.org. Et merci enfin à la Fondation de France.